Merci Jean Lebrun et bonjour à tous.
Hey, you know what?
Troisième émission autour de l'œuvre de Clément Rosset dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Après André Martins, venu vous parler du réel et son double et des principes de sagesse et de folie lundi dernier, Nicolas Delon, venu hier disserter avec nous sur l'objet singulier, c'est Clément Rosset lui-même qui est notre invité aujourd'hui, en compagnie d'autres camarades qui prendront la parole ensuite, pour venir parler d'un livre qui s'appelle précisément « Loin de moi, son essai sur l'identité ». Bonjour Clément Rosset.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur France Culture.
Merci.
Clément Rosset, ça fait deux jours qu'on parle de vous, qu'on disserte sur vos travaux, qu'on essaie de comprendre ce que signifie chez vous le mythe d'Œdipe, le singulier, la filiation, Bergson, Spinoza, enfin, votre travail. Et pourtant, comme dirait Socrate, le gibier était à nos pieds, nous ne le voyons pas. On a omis de se poser la seule question qui vaille, en tout cas d'un certain point de vue. C'est la question de savoir qui vous êtes. Qui êtes-vous, Clément Rosset ?
Ben, nous verrons cela peut-être un peu plus tard, mais pour commencer, je remarque que votre question est en rapport avec le titre même du livre, et c'est sur l'identité, et puisque la thèse du livre, de ce petit livre-là, du moins, est de mettre en doute le fait qu'on puisse avoir un sentiment de l'identité personnelle, un sentiment d'une unité psychologique, un sentiment de celui qui fait ceci le matin, qui fait cela le soir, qui pense le lendemain à autre chose, et tout de même, la même personne morale, la même personne psychologique.
Et cette identité serait garantie par notre carte d'identité, par exemple.
Mais non, justement, c'est ma thèse. Ma thèse, c'est que ce qui est confirmé, ce qui est attesté, c'est la carte d'identité, c'est l'identité sociale qui peut être mise en doute en cas de double vie, triple vie, espionnage, etc. Mais qui, dans la plupart des cas, peut, elle, être attestée, montrée, exhibée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai, dans Le réel et son double, je rappelle un épisode d'un roman de Tournier, je crois que c'est Le roi des aulnes, mais je crois, oui, c'est dans Le roi des aulnes, qui dit que un bienfaiteur de l'humanité veut débarrasser l'humanité de cette bureaucratie qui fait qu'on est des sujets sociaux, qu'on a des papiers, qu'on remplit des formulaires, qu'on ait un numéro, etc., etc., et qui ainsi brûle dans toutes les mairies, dans tous les hôpitaux, dans tous les établissements officiels, brûle les papiers en somme qui établissent une identité. Et il constate que, une fois l'œuvre achevée, l'œuvre de salubrité publique achevée, les hommes marchent à quatre pattes, ils sont devenus des cochons, des bêtes. Et il en conclut, et je découvris tout de suite que l'âme humaine, je dirais l'identité personnelle, est faite de papiers.
N'est faite que de papier. On retrouve d'ailleurs cette idée chez vous dans le récit que vous faites de la petite scénette, je crois, de Courteline, non, où un individu vient réclamer un papier et reconnaît un camarade.
Absolument,
de classe.
Oui, c'est dans la lettre de change, je ne sais plus, c'est un très court récit où je crois que je ne sais plus dans quoi c'est. Je crois que c'est dans la saison double où quelqu'un vient chercher un papier d'identité, je crois, à la mairie. Et reconnu par le guichetier. Courteline en avait gros sur la patate contre les employés des ministères. Et avant d'entamer le détail, enfin de dire sa requête, il s'entretient avec le guichetier qui se trouve être un ami. Et ils se sont vus chez Madame Intel, chez Monsieur Intel, ils ont dîné encore il y a deux jours, etc. Et puis alors, bon, eh ben, ouais, j'étais venu pour chercher ma carte d'identité. Ah! Mais qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Qui suis-je? Je reprends votre question. Qui suis-je? Ben, vous le savez bien, vous venez de me parler de moi quand on s'est vu ici et ça, vous avez mon prénom, mon métier et tout. Ah, pardon, réplique l'employé modèle. Je vous connais en tant qu'homme du monde, mais en tant qu'individu, je ne vous connais pas. Oui, c'est tout à fait la même idée.
De cela, évidemment, l'idée que nous n'avons pas d'identité autre qu'une identité sociale. C'est une des choses récurrentes dans votre travail, Clément Rosset. Les apparences, en général, doivent être surmontées au profit de la vérité. Le sensible doit être surmonté au profit de l'intelligible. Or, vous inversez les termes. Vous dites que la vérité ou l'idée d'une vérité nous masque les apparences plus qu'elle nous invite à les surmonter, en somme, il y a plus de mensonges dans le goût de la vérité que dans le mensonge lui-même, pour reprendre une phrase de Nietzsche. Et de la même façon, avec l'identité, on dit souvent que derrière l'identité sociale, factice, forgée par les circonstances, il y a une identité immuable, un vrai moi, un moi profond, celui dont on veut connaître les pensées à fond. Et puis,
comme dit Molière dans Don Juan.
Comme dit Sganarelle. Voilà. Et en vérité, ce que vous dites, vous, c'est que ce fantasme de l'identité personnelle, véritable, du moi consistant, dissimule, d'abord et avant tout, la seule identité que nous ayons à disposition et qui, elle, est tributaire d'autrui.
Oui, tout à fait. Mais je serais un peu plus précis encore. Et ceci irait dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire que ce livre, contrairement à ce qu'on pourrait estimer, va tout de même dans le sens des autres livres, en tout cas de tous les livres qui sont consacrés à l'illusion en tant que double, et que j'ai réuni dans le recueil
L'école du réel,
merci. Mais je pense que ce fantasme d'une vraie identité transcendante par rapport à l'identité factice opérée par les papiers d'état civil et ce genre de choses, je pense que ce fantasme est très proche et même touche de plein fouet au fantasme duplicatoire. C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué à dire, c'est très simple tout de même, c'est que ma véritable identité, c'est un double fantasmatique auquel j'adhère sans du tout pouvoir le décrire ou le démontrer, alors que ma réalité, qui est sociale, elle, je la présente comme le faux, comme la... Donc la vérité se trouve du côté d'une duplication fantasmatique, enfin dans l'illusion, la vérité se trouve, mon double existe et moi je n'existe pas, en quelque manière. Et c'est la raison pour laquelle je parle de la hantise du double. Dans le premier chapitre, ce mot hantise, qui se réfère au premier sens du mot en français, c'est-à-dire le fantôme hanter une maison, une hantise comme fantôme, être fantomal, je l'ai trouvé dans un conte indien de Mallarmé, mais maintenant on l'emploie surtout pour désigner une obsession. Il a la hantise des rats, la hantise de ceci, la hantise de cela. Mais ça, c'est un second sens dérivé. Moi, je l'entends au premier sens. La hantise du double, c'est le fantôme. La hantise du soi, je veux dire, la hantise du soi. Le fantôme du soi, c'est justement le double. C'est un fantôme, une hantise. C'est une existence fantomale qui hante le véritable moi qui est social.
L'identité personnelle, écrivez-vous, est comme une personne fantomale qui hante ma personne réelle et sociale qui rôde autour de moi. Souvent à proximité, mais jamais tangible ni atteignable, et qui constitue ce que Mallarmé, dans le premier de ses contes indiens, appelle joliment sa hantise. Mon fantôme le plus familier sans doute, mais enfin mon fantôme. Et un fantôme n'est jamais qu'un fantôme, même s'il vous visite de près et se décide même parfois à prendre carrément votre place, comme il advient dans un sketch de Raymond Devos. Hier soir, je suis rentré chez moi plus tôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles.
Oui, c'est Raymond Devos, je lui en laisse le génie. Je voulais seulement vous signaler, c'est purement anecdotique, que dans les traductions qu'il y a eu jusqu'à présent de ce livre, dont nous parlons en ce moment, les traducteurs ont fait le contresens sur hantise et ont traduit hantise par obsession. C'est ce qui réduit à néant le sens et du premier chapitre et du livre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lire les traductions de vos livres, parce qu'on attrape des colères, quoi, en fait, des malaises, sauf qu'on a la chance qu'il soit traduit par Monsieur Santiago, ici présent.
Oui, Santiago Espinoza, qui est votre traducteur,
effectivement. Oui, pas Santiago du Chili, Santiago Espinoza, qui a traduit 3 de mes livres, effectivement.
Alors voilà, on en reparlera d'ailleurs, et on en parlera également avec lui, Clément Rosset, dans une prochaine émission qui portera sur la force majeure et ce que vous dites de la joie. Clément Rosset est avec nous aujourd'hui, ainsi que Nicolas Delon, André Martins et Santiago Espinoza, pour parler de « Loin de moi », le livre que Clément Rosset consacre à la question de l'identité personnelle, dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à l'œuvre du dit Clément Rosset, en tout cas de l'individu sans identité qui signe ses livres d'une identité sociale, un prénom et un patronyme, Clément Rosset, mais qui n'en disent finalement pas plus que cela, Clément.
Oui, mais que dire de plus? C'est toute la question.
Papa.
Est-ce que le mélomane amoureux de la joie que vous êtes a reconnu le morceau qu'on vient d'entendre?
Bien entendu, c'est la péricole, c'est un moment de l'acte 2 de la péricole d'Offenbach. Mais il n'y a qu'à des villes et des librettistes, et je le reconnaîtrai plus facilement qu'il s'agit d'un, non pas du compositeur que je mets au-dessus de tout, loin de là, mais d'un compositeur que je mets très au-dessus de l'opinion commune dans laquelle on l'a longtemps relégué.
Offenbach. Hein.
Offenbach, ouais.
Offenbach, ici, c'est peut-être à double titre qu'il est pertinent, peut-être pour comprendre votre travail, dans la mesure à la fois où c'est le compositeur de la joie et où, en l'occurrence, ce qu'il décrit, c'est une ivresse.
Oui, et j'ajouterais, c'est la joie, il le reconnaissait lui-même, c'est une ivresse, ça va très bien avec la joie. Dionysos incarne les deux notions. Et je dirais aussi que dans ce Tether, comme dans beaucoup d'autres partitions, comme la vie parisienne, c'est l'art du faux. Et l'art du faux est pour moi un peu l'art du vrai, puisque le prétendu vrai est une duplication fantasmatique de la réalité, et que la réalité, c'est quelque chose qui, comme ce que dit la péricole dans cette ère, est quelque chose qui relève plutôt du fictif, enfin de l'imaginaire, alors que c'est pourtant la réalité tangible telle que nous pouvons l'atteindre. Il y a un éclat du faux chez Offenbach qui me paraît être indiscernable de l'éclat du vrai.
C'est-à-dire l'éclat du faux. Est-ce que vous diriez qu'il y a plus de vérité dans l'éclat du faux que dans l'éclat du vrai à ce moment-là? Est-ce que la notion de vérité est encore pertinente?
Je crois qu'ils se confondent. Ils se confondent un petit peu. Il arrive souvent que l'éclat du vrai, tel que l'imaginent des très grands philosophes comme Platon, Aristote, soit un éclat que je trouve un petit peu terne. Alors que l'éclat et la rugosité et la présence de ce que j'appelle la réalité ou le réel est quelque chose de beaucoup plus éblouissant au sens tellement éblouissant, veux-je dire, qu'on en est ébloui un peu comme dans un tout autre contexte les gens qui sortent de la caverne de Platon et on reconnaît la réalité vraie et l'éclat du vrai au fait précisément qu'on en a été tout ébloui et qu'on se dit, ah ben oui, ça, ça, ah ça c'est vrai, c'est vrai, on est comme électrocuté. C'est un petit peu ce qui arrive dans la même péricole lorsque Piquillot dit, dans le même acte 2, dit à la péricole « Car je sais, coquine, que c'est vous, la maîtresse du roi », on voit tout de suite que c'est vrai. Mais invraisemblable que ça apparaisse.
Santiago Espinoza.
Est-ce que c'est pas ça, est-ce que vous avez ressenti à l'âge de 6 ans à peu près, quand vous avez entendu pour la première fois, le Boléro de Ravel ? Ah, mais c'est bien ça ! C'est un peu la confirmation de la réalité.
C'est un petit peu différent. D'abord, je crois que j'avais moins de 6 ans, mais ça c'est un détail. Et ensuite, le sentiment qui m'a étreint, c'est moins exactement... Il y a du rapport certainement entre les deux idées, mais c'était moins le sentiment « tiens, ça c'est vrai », que le sentiment que je comprenais le mystère des choses. Je comprenais pourquoi il y avait des choses, un peu comme dans la théorie de la musique de Schopenhauer. Brusquement, j'étais informé sur l'origine, le devenir et la fin de toute existence. J'avais plus besoin de savoir rien, je savais tout. Mais c'était pas... C'était une sorte d'éclat du vrai, mais portant plutôt sur l'explication de l'inexplicable.
Est-ce que, justement, c'est ce que j'allais vous dire, est-ce que dans l'émotion esthétique, par exemple, on n'est pas dans l'ordre, c'est Kant qui permet de le penser dans la critique de la faculté de juger, est-ce que dans l'émotion esthétique, on n'est pas dans un ordre, justement, qui est celui de l'évidence du beau, l'évidence du beau dans l'émotion qu'il procure, mais une évidence qui ne serait pas corrélée à la vérité. En somme, la beauté, c'est l'évidence sans la vérité. Évidence débarrassée du vrai.
Vous répétez là une des quatre définitions de l'analytique du beau de Kant, dans la faculté du juger, et ça paraît une analyse tout à fait pertinente, comme les trois autres moments d'ailleurs de Kant. Je crois que Kant, qui à mon avis s'est beaucoup ébloui sur beaucoup de sujets, notamment sur le sujet de l'identité personnelle, où il reprend et veut réformer Hume, et il ne le réforme pas du tout, il s'y casse les dents. Mais sur le sujet du beau, je crois que Kant a vu juste. Et effectivement, il y a ce mélange de très très curieux et intéressant, de révélation de la vérité et d'opacité totale de cette vérité. C'est un sentiment du rationnel, mais sans rationalité.
Voilà, donc oui. Quelque chose qui est de l'ordre, encore une fois, donc d'une évidence, mais débarrassé de l'injonction de la vérité. Ce qui permet d'ailleurs à l'art d'être à lui-même sa propre fin.
Voilà, oui, sa propre vérité, sa propre lumière, et d'être... Enfin, c'est ce que Kant appelle l'universalité sans concept, quoi.
Voilà, et on est là au paragraphe 9 de la critique de la faculté de juger. Il y a deux préalables à Kant, deux figures dont il s'inspire. Hume, qui déconstruit l'identité personnelle et qui interdit à l'homme de pouvoir parler des choses en soi et de pouvoir dire ce qu'elles sont comme telles, qui en somme réduit ce qu'on présente comme une vérité sur le monde à une habitude, à des concomitances, et de ce point de vue fait œuvre utile et inflige une leçon d'humilité au philosophe qui prétend connaître le réel. Ça, c'est Hume. Puis il y a un autre ancêtre de Kant, c'est Rousseau. Et Rousseau qui, lui, remplacerait davantage d'ailleurs l'éblouissement par le goût de la transparence et qui, lui, pour le coup, ne cède en rien sur la notion d'identité et au contraire l'hypertrophie.
Absolument, vous avez tout à fait raison, c'est une évidence. Mais ce n'est pas l'ancêtre, c'est le contre-ancêtre. Rousseau a dit exactement le contraire de Hume, bien que Hume l'ait reçu en Angleterre, comme vous savez, qu'ils étaient à un moment amis. Et je dirais plutôt que comme ancêtre de cette critique de l'identité personnelle, il faudrait plutôt citer Montaigne, qui dit que notre fait ne sont que pièces rapportées, qu'il n'y a pas d'unité du moi, et ou encore, évidemment, Pascal s'inspirant de Montaigne et disant « qu'est-ce que le moi ?» enfin, etc. Mais puisque vous citez Hume, et puisque je me suis inspiré, au fond, je ne fais qu'illustrer à ma manière la critique de Hume dans le traité de la nature humaine, je voudrais vous raconter une anecdote, enfin, ou vous dire ce qui s'est passé lors de la publication de ce livre, c'est que la critique a fait beaucoup d'articles assez flatteurs, mais en disant « c'est une plaisanterie, mais c'est faux ». Mais c'est très drôle. On sait s'éblouir à un moment. Même les traducteurs étrangers ont fait des préfaces en disant on ne peut pas soutenir quelque chose aussi idiot, au sens de faux. N'est-ce pas ? Comme si ces gens n'avaient jamais entendu parler de Montaigne, de Pascal et de Hume. Je ne faisais qu'exprimer une idée très, très, très ancienne.
On va entendre d'ailleurs la première formulation de cette idée. Enfin, pas la première, puisque la première, c'est Montaigne, vous l'avez dit. Hein. Notre fait, ce ne sont que pièces rapportées. Montaigne lui-même se décrit comme une série de lopins, finalement, et non totalisable. Mais Hume, pour ma part, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle moi, Je bute toujours sur une perception particulière ou sur une autre, de chaud, de froid, de lumière, d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment, sans une perception, et je ne peux rien observer que la perception. Quand mes perceptions sont écartées pour un temps, comme par un sommeil tranquille, aussi longtemps, je n'ai plus conscience de moi, et on peut dire vraiment que je n'existe pas.
Eh bien, voilà une bien belle page qui a de quoi faire qu'on s'étonne de l'étonnement des critiques de ma thèse. Et d'autre part, voilà une page qui, tout autant que celle sur la causalité, a complètement bouleversé Kant, a changé Kant et a fait que Kant a passé sa vie à essayer de réfuter des vues aussi, au gré de Kant, consternante, navrante, épouvantable. Parce que s'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de moralité, etc. etc. Mais à mon avis, Kant n'a jamais réussi, de manière convaincante pour moi en tout cas, à réfuter Hume sur aucun de ces deux articles, pas plus que sur le troisième qui est l'idée de Dieu.
Mais est-ce qu'ils ne sont pas peut-être sur deux registres différents? Est-ce que Kant n'est pas un auteur du collectif qui en somme a besoin de l'idée d'identité comme la foule peut faire une identité? Est-ce que finalement le projet de Kant, qui est quand même un projet de paix perpétuelle, hein, ce sont ses propres termes, l'ambition de décrire la connaissance, de savoir ce qu'est l'homme, est-ce que ce projet n'est pas essentiellement collectif alors que le texte de Hume, le traité de la nature humaine, s'adresse juste à l'individu? Et qu'en somme, ce qui vaut pour un individu, c'est-à-dire assumer la diffraction du moi, l'impossibilité du moi, ne peut pas valoir à l'échelle d'une société. Est-ce qu'en somme, ils ne sont pas sur deux registres différents?
Ils le sont certainement, dans la mesure où Kant a besoin de l'idée du moi profond, intime, indivisible, comme la République française. Comment est-ce qu'on dit
Une et indivisible.
Une et indivisible. Il en a besoin pour des raisons pratiques. Il en a besoin pour des raisons morales. Mais il me semble que Kant pense aussi que l'idée d'un moi unique, ne doit pas seulement être pensée en tant qu'idée utile, idée pratiquement utile, idée nécessaire à la société et à la morale, mais qu'elle recouvre aussi une idée de la raison, une idée nouménale, et que même si nous ne pouvons pas avoir de concept, comme le dit Hume, pas avoir de concept de l'unité psychologique du moi...
On en a besoin.
Non seulement on en a besoin, mais il faut y croire. Elle existe, on ne la conçoit pas, mais on la pense. C'est une idée pure, une idée de la raison pure. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous avez raison à moitié.
C'est déjà ça.
C'est déjà beaucoup.
C'est déjà ça, Clément Rosset. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge et je dirai hautement « Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. »
Allez, fais la reprise.
Il fait la reprise, absolument. Clément Rosset est avec nous aujourd'hui pour parler de l'identité. « Loin de moi », c'est le titre de votre livre paru aux éditions de Minuit il y a un certain temps déjà, et dans lequel vous remettez en cause, après Pascal, Hume, après Montaigne avant eux d'ailleurs, la question de l'identité personnelle. On vient d'entendre quelques lignes du début des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, illustrées par la cinquième symphonie de Beethoven. Clément Rosset, pourquoi détestez-vous autant l'un et l'autre, Rousseau et Beethoven?
Je ne sais pas, mais en tout cas pour la même raison. parce que vraiment, je trouve que votre illustration est colle au texte de Rousseau. Jamais texte a collé aussi bien une musique que le début de la 5e symphonie.
Je n'ai fait que suivre vos recommandations, en vérité, là-dessus. Oh. Je n'ai fait que vous lire, en somme. Ah, dans la philosophie tragique, vous expliquez pourquoi c'est la même chose, Beethoven et Rousseau. Mais alors, pourquoi ?
Écoutez, vous faites allusion à un livre que j'ai écrit il y a, je sais pas, 50 ans, que j'ai jamais osé relire tellement son style en était exécrable. Et là, vous prenez un petit peu au dépourvu parce que je n'ai pas beaucoup réfléchi, bien sûr, sur cette question. Bien sûr, j'ai réfléchi au cas de Beethoven, qui est à la fois un très grand musicien, par son génie créatif, harmonique, rythmique, mélodique et tout. Et un musicien avec lequel j'ai beaucoup de peine à m'entendre, ça c'est sûr. Et je suis d'autant plus, il m'est d'autant plus difficile de vous répondre que ce que je pourrais évoquer sont des raisons qui sont tout à fait non esthétiques, non rationnelles, et reposent sur une simple impression qu'il y a une idée héroïque, romantique, morale, du destin de l'homme, du destin de l'humanité, qui me paraît commune à l'époque et commune à ces deux grands artistes. De sorte que quand je lis l'un, je crois entendre l'autre et vice-versa, à tel point que lorsque j'entends, par exemple, ce que vous venez de nous faire entendre de Beethoven, j'ai l'impression d'être dans un temple protestant ou dans une église intégriste ou pas intégriste, peu importe, et que je suis en train de subir un sermon m'exhortant à être meilleur, à penser un peu plus aux autres, enfin, des choses comme ça. Et ce sont des choses qui, personnellement, me répugnent pour des raisons, alors que j'ai expliqué en détail dans beaucoup de livres, notamment dans les tout premiers. Mais je ne peux que vous dire que pour des raisons un petit peu inexplicable, la partition musicale de l'un me paraît épouser la partition littéraire de l'autre. Enfin,
vous parlez de Rousseau, de son délire moral, de sa persécution de la plénitude face au destin tragique, de ce rapport qu'il entretient à l'existence, qui est un rapport de haine. Et vous parlez de Beethoven, et vous dites « ce musicien qui sut si fort haïr la musique que les siècles moralistes le proclamèrent comme le musicien par excellence, tout heureux qu'ils étaient de pouvoir enfin condamner le sens tragique de la musique à l'aide de son autorité et de la transformer en une apaisante musique pour les dimanche après-midi. » Et vous continuez, vous dites « Socrate se contentait d'expulser les poètes et les dramaturges de sa cité heureuse. Beethoven, lui, se fait poète. Plutôt que d'expulser les hommes tragiques, ce qui signifie les reconnaître comme ennemis et admettre leur existence, voilà une solution plus radicale, leur emprunter leurs moyens d'expression et tenir avec ceux-ci un langage moral, monopoliser l'art au profit de la morale et faire peser sur lui le plus moral des dirigismes. » Vous vous retrouvez dans ces lignes que vous avez écrites il y a fort longtemps, Clément Rosset. Qu'est-ce que le « moi » Clément Rosset reconnaît de lui-même?
Je me reconnais parfaitement. Je
c'est pense bien le problème, c'est contradictoire avec ce que vous dites du moi, ça.
Ah oui, en quoi?
Si vous vous reconnaissez vous-même, c'est qu'il y a une permanence de
l'identité. Le moi social a des petits rendez-vous avec lui-même. Hein. C'est pas 150 000 personnes différentes. Il y a des constantes. L'unité psychologique, l'unité... est une chose, le fait de si vous voulez de réfuter l'idée d'unité psychologique, de synthèse psychologique du moi, ne veut pas dire que nous sommes schizophrènes, que nous sommes absolument incohérents. Nous adorons Beethoven le matin et Deston le soir. Il y a des cohérences qui charpentent cette pseudo-unité psychologique, mais qui, à certains égards, est à tout de même quelque chose de vrai, même si elle peut se craqueler complètement sous l'effet de l'âge, sous l'effet de la maladie, etc. Mais si je suis d'accord avec ce que vous avez lu de moi, sachez que vous êtes le premier à me dire cela, parce que ça fait 50 ans que je n'avais pas lu cela.
C'est un très bon livre, vous savez, la philosophie tragique.
Et que il y a certains disent qu'il y a une certaine puissance, mais il y a aussi beaucoup comment dirais-je, tout ce que je déteste. C'est-à-dire, il y a énormément de rhétorique, énormément de sérieux, énormément de, je trouve pas le mot, d'exaltation, voilà. Ça me rappelle, ce que vous avez lu de moi, me rappelle une édition des sonates de Beethoven, avec des notes de professeur de ma grand-tante, qui était tout simplement boulanger, Nadia Boulanger. Alors, elle mettait en marge, au crayon, sublime. Encore plus sublime. Au-delà du sublime, etc. Pire que sublime, la mort. C'est une folle, n'est-ce pas? On ne mettrait pas ça en marge de Mozart ou de Bach, hein?
Nicolas Delon, qui est à table avec nous, là, en ce moment, je dis à table comme si on mangeait, c'est un peu le cas d'ailleurs, parce qu'il y a tous vos livres sont répandus sur la table.
Oui, ils sont peut-être pas très digestes.
Mais ils le sont plus en tout cas que ceux dont ils parlent, ouais. C'est-à-dire du réel. Nicolas Delon, qui est donc à table avec nous, à peu ou prou, à quelques années près, l'âge que vous aviez quand vous avez écrit La philosophie tragique, Clément Rosset.
Ah oui, c'est l'excuse. La première moitié a été écrite quand j'avais 19 ans, et la deuxième moitié quand j'entrais dans mes 20 ans. Alors, c'est pas une excuse, c'est pas une explication, mais enfin, c'est une chose tout de même à noter. Et je n'écrirai plus comme ça. Mais peut-être que je pense toujours cela. Mais je ne le dirai pas comme cela. Je ne le dirai pas comme cela. Et en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction avec le fait que je me reconnaisse. Par exemple, quand j'avais 8 ans, j'adorais tout ce qui était amer, je détestais le sucre. Aujourd'hui, c'est pareil. Je n'ai pas pris de dessert, n'est-ce pas, messieurs, avant de venir. Et ça ne veut pas dire que ça contredit ma critique de l'unité du moi.
Nicolas Delon, juste une question quand même pour vous. Quand on travaille sur Clément Rosset et que donc on lit des livres qui nous enseignent en permanence à ne pas se prendre pour soi-même, hein, qui enseignent à son lecteur à ne pas se prendre pour lui-même. Quand on est en présence de cet ouvrage-là et de ce genre d'ouvrage-là qui ne cesse de déconstruire en somme la tentation qu'on pourrait avoir de se prendre au sérieux, comment est-ce qu'on concilie ça avec... l'enthousiasme qui accompagne d'abord des études, vous venez de passer l'agrégation, l'enthousiasme et l'esprit de sérieux aussi qui accompagne ça. Quel effet, de quelle façon est-ce que cette lecture est corrosive?
Elle est corrosive, mais non pas triste. Je vois pas ce qu'il y aurait pu y avoir de triste à mettre.
Non, je dis que c'est un remède au sérieux, je dis pas que c'est triste.
Hein. Loin de moi, le moi. Elle est corrosive d'une part en ce qu'elle est absolument contraire à tout ce qu'on nous enseigne en hypocagne, en cagne. À l'école normale et puis pour passer l'agrégation. Donc c'est tout simplement un bol d'air frais, premièrement. Corrosive en ce qu'elle se trouve au sein des bibliothèques de philosophie, tout en étant en contradiction avec les bouquins qui l'entourent. Et en ce qu'elle est absolument violente. Alors c'est là qu'on peut pointer la continuité absolue entre la philosophie tragique et le dernier des ouvrages de Clément Rosset. C'est le tragique, c'est ça, c'est tout simplement la violence qui fait du bien. La violence qui fait du bien, de savoir que de toute façon le réel est indigeste et indésirable, mais qu'il n'y a pas d'autre choix que de toute façon l'accepter et de vivre dans ce réel. Donc Beethoven ou pas, Mozart ou pas, il faut bien s'en contenter et il n'y a pas d'autre moyen de vivre que de vivre joyeusement. Donc... corrosif et plaisant à la fois.
Vous dites il n'y a pas d'autre choix. En fait, il n'y a pas de choix chez vous, Clément Rosset. Je me souviens dans La philosophie tragique, d'ailleurs, d'une analyse que vous faites des stances de Rodrigue, où Rodrigue, dites-vous, fait semblant d'hésiter entre l'amour et l'honneur, alors qu'en vérité, toute son hésitation est déjà résolue d'emblée. On sait qu'il va choisir l'honneur, il ne fait que délibérer après coup.
C'est toujours le cas dans Corneille, hein. Le débat cornélien est toujours résolu au départ.
À l'avance.
À l'avance. Toujours, je m'associe tout à fait à ce qu'a dit Nicolas Delon. C'est tout à fait ça, quoi. Il a résumé en deux mots. Alors, vous disiez...
Non, mais juste, c'est sur cette question du choix. En somme, en général...
Ah oui, alors,
là encore, pour rester dans cette inversion des termes. En général, on dit que la délibération précède la décision. Et on a le sentiment à vous lire... De la même façon que l'existence précède l'essence ou l'idée de l'essence, de la même façon que les apparences précèdent la vérité ou le goût qu'on peut avoir pour les surmonter,
que la décision précède la délibération. Mais ça, c'est une vérité pour moi évidente, mais je vous rappelle qu'elle a déjà été dite par Pascal dans un fragment des pensées. Monsieur Oranès pense qu'il trouve il se décide d'abord et trouve les raisons après coup.
Oui, c'est comme quand Charlus annule un dîner dans La recherche du temps perdu. Il dit « Impossible venir ce soir, mensonge suivra
». C'est ça, c'est exactement ça. Et oui, je veux Charlus...
La décision, la délibération. Rodrigue.
Oui, mais enfin, il y a également dans la critique du libre arbitre a été faite par beaucoup d'autres penseurs que Proust, ou enfin écrivains que Proust, ou que d'écrivains comme Corneille. Le premier, celui qui l'a exprimé avec le plus de clarté et de pertinence, c'est Spinoza, me semble-t-il. Et je répondrai à votre question. Est-ce que vous attendez peut-être ce à quoi vous attendez peut-être comme réponse, c'est-à-dire j'exclus tout à fait la liberté de mon univers intellectuel, quoi. C'est une notion qui est une pseudo-notion, comme, ou un souffle d'air, comme dirait Spinoza.
Mais quelqu'un comme Spinoza, par exemple, sa critique du libre arbitre n'est pas une critique de la liberté. C'est une façon de fonder la liberté.
Il y a trois libertés. Chez Spinoza, et peut-être quatre même. Mais la liberté qu'il critique, c'est la liberté du libre arbitre, justement. Et alors c'est là, mais je ne critique pas la liberté du livre 3, du livre 5, je veux dire, ni de l'éthique, ni ne contester la liberté politique d'être libre d'aller, comme dit le loup de La Fontaine, au chien. Mais vous attachez, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez. Ces deux libertés-là, la liberté pratique et la liberté, je ne dirais pas métaphysique, mais la liberté par l'exclusion des passions mauvaises.
Et par la compréhension par des mécanismes.
Par la compréhension et par la cause adéquate, enfin le livre 5, ces deux libertés-là, j'y adhère tout à fait. Ce que je critique, c'est simplement une liberté qu'il critique lui-même, c'est-à-dire le liberum arbitrium. Et dans la même ligne de pensée, je conteste également, mais après Bergson qui l'a dit beaucoup mieux que moi, dans l'introduction à la métaphysique, je critique, comme aussi certains auteurs de l'Antiquité grecque, la notion de possible n'a pas de sens dans le monde intellectuel dans lequel qui est le mien.
La notion de possible, vous voulez dire en somme que pour vous, le possible, c'est le synonyme de la réalité.
Exactement.
C'est-à-dire que le monde n'est pas possible avant d'exister, oui. Il existe, et rétroactivement, on se dit, puisqu'il existe,
exactement,
c'est qu'il a
c'est
été
ce
possible.
C'est ce que dit Bergson, et je lui donne tout à fait raison. Et de même, ce qu'on appelle le destin, tiens, voilà, on n'échappe pas à son destin. Pour moi, le destin, c'est le réel. On n'échappe pas au réel. Il n'y a pas de hiatus entre le réel et le destin. Notre destin, c'est la réalité.
En somme, il n'y a pas de parole qui précède l'existence. Il n'y a pas « au commencement était le verbe ». Non, « au commencement était l'existence » et le verbe est venu ensuite.
Serge, j'y étais pas, vous voyez.
Vous voulez dire Clément Rosset. Oui. Clément Rosset, de quoi s'agit-il ici ?
Là ?
Oui.
Il s'agit du début du Manuel antique, l'opus 1 de Maurice Ravel, version pianistique originale, publié en 1895, aux éditions, je crois, Enoch. Je crois, hein. Et qui a été orchestré un peu 20 ou 30 ans plus tard. Qui est plus connu maintenant à l'orchestre, je crois, qui est, comme toujours chez Ravel, admirablement orchestré. Il a écrit des choses avant. Il a écrit la Sérénade grotesque et la Ballade de la Reine morte d'aimer. Très beaux morceaux qui sont déjà tout Ravel, mais qu'il a trouvé pour l'un trop influencé par Satie, pour l'autre trop influencé par Chabrier, et qui n'a pas voulu éditer, mais qui ont été réédités après la mort de Ravel, édités après la mort de Ravel, et qui figurent maintenant dans toutes les dans toutes les œuvres complètes de Ravel. Thank you.
André Martins.
Je voulais essayer de reprendre la question d'une apparente incohérence donc, entre le fait qu'on demeure le même d'une certaine façon et qu'on est en devenir ou qu'il n'y a pas d'identité. Pour souligner que c'est là la question. Donc ce qu'on est, on est dans le présent à l'instant. Et si il a des choses, une cohérence qui existe, cette cohérence ne se confondra jamais avec une identité de cette cohérence.
Je comprends pas.
Je veux dire que il y a une cohérence du fait qu'on est ce qu'on est, et c'est-à-dire et pas du fait qu'on serait une identité qui doublerait ce qu'on est. Donc,
c'est en cela d'ailleurs, Nicolas Delon, qu'on pouvait faire la différence entre l'identité et la singularité dans l'œuvre de Clément Rosset.
Oui, c'est ça. C'était le premier sens de l'identité comme être identique à soi seul, être soi-même. L'identité comme être identique entre deux termes. Donc ce que André dit est assez juste, c'est que l'identité première, la singularité, c'est la cohérence avec soi-même, le fait de rester singulier et rester soi-même toute une vie, qui n'est pas la même chose que d'avoir une identité fixe qu'on pourrait assigner et éventuellement décrire.
Et qui n'est jamais une cohérence cherchée, c'est une cohérence plutôt spontanée.
Immanente, on pourrait dire. Clément Rosset, quand on est un penseur de l'unicité, on ne peut pas être un penseur de l'identité. Quand on pense qu'il n'y a qu'un seul monde, que ce monde est infini, qu'il n'est pas d'au-delà, on ne peut pas être en même temps un penseur de l'identité.
Sans doute, c'est tout à fait ce que dirait par exemple Spinoza. Il n'y a que des individus, mais fondus dans une unité qui est celle de Deus Sive Natura. Mais je voudrais revenir sur ce qu'ont dit Nicolas Delon et André Martins, c'est que effectivement, à la lumière de ce qu'ils ont dit, il m'apparaît que à l'identité sociale dont j'ai parlé, on pourrait tout aussi bien joindre l'identité biologique. C'est un peu ce que voulait dire André. Il y a une cohérence biologique, même si le corps évolue sans cesse, mais le code génétique reste le même. Donc il y a non seulement une identité sociale, mais une cohérence biologique, une unité biologique.
Mais alors où le temps passe-t-il, Clément Rosset ?
Ah ben j'aimerais bien le savoir. Hein. En tout cas, il passe vite. c'est sûr.
Non mais qu'est-ce qui évolue ? Qu'est-ce qui n'est jamais stable alors ? Puisque le corps demeure, l'identité sociale demeure.
Ah non, je ne dis pas
demeure.
Que le corps demeure, le corps se modifie à tout instant.
Oui, mais il y a un principe d'unité, un principe de stabilité, un code génétique.
C'est le code, donc. Oui. Voilà. L'identité du code, enfin, pour autant qu'on suive la science contemporaine, il semble incontestable qu'il y ait un code génétique qui soit le même de la naissance à la mort. Et
mais est-ce que l'idée d'un code génétique à laquelle vous souscrivez ne reconduit pas le schéma métaphysique d'une identité stable qui serait accidentellement altérée en surface et qui en son fond, comme on dit, resterait ce qu'elle est de façon tout à fait immuable, intangible ?
Vous avez raison et vous avez tort, c'est comme tout à l'heure. Vous avez à moitié raison en ceci que le champ de variation de l'identité personnelle est assez large. Il y a beaucoup de choses qui peuvent varier. Mais en raison de l'identité du code, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas varier, qui ne varient pas. D'où cette impression contradictoire qu'on a souvent, que qu'on pense à son cousin, sa mère, quelqu'un qu'on connaît, etc. On se dit tout aussi volontiers, ah mon Dieu, comme il a changé, comme elle a changé. Et aussi volontiers, mais c'est toujours la même personne.
Mais dire comme il a changé, c'est se donner un point de repère par rapport auquel il aurait changé. Donc d'une certaine façon, c'est impliquer l'identité. Dire de quelqu'un qu'il a changé.
Non, il a changé par rapport à l'être que j'ai connu en janvier, février, de l'époque. De toute manière, cette querelle est un. Et vous avez raison de me la faire. Et elle touche à un problème qui est savoir ce que nous entendons par ce fantasme d'identité personnelle. C'est-à-dire ce sentiment dont parle Hume, mais dont on parle bien sûr d'autres que nous avons cités, mais personne n'en a parlé aussi profondément, aussi clairement, et aussi en détail que Hume, notamment dans la page que vous avez citée. Ce sentiment d'identité personnelle, c'est quoi ? C'est très difficile à dire, c'est très difficile de définir quelque chose qui n'existe pas. Et j'y ai passé pas mal d'années à essayer de définir quelque chose qui n'existe pas. Et j'ai eu autant de peine que d'essayer de définir quelque chose qui existe, c'est-à-dire le réel. La difficulté est à peu près la même. Mais il est certain que le sentiment d'identité personnelle est un sentiment fugace, très, très... prégnant, très, très insistant. Je reconnais bien, ah, c'est tout lui, je reconnais bien là, c'est un Rosset ne fera jamais autrement, un Delon, pas la peine de chercher ailleurs, c'est un Delon, ben voilà, c'est pour ça qu'il fait ça. Alors, comment se fabrique ce fantasme d'identité personnelle? C'est vraiment très difficile à dire, mais c'est quelque chose qui n'est pas directement en rapport avec la permanence ou la non-permanence d'un état biologique ou d'un état social, bien entendu. Il est évident que celui qui est candidat à la présidence des États-Unis est très différent du jour au lendemain, quand il a échoué aux élections, ou que lorsque, si vous êtes archevêque ou pape, et que le lendemain vous êtes haut sur le bûcher, ça a dû arriver une ou deux fois, j'imagine, vous avez beaucoup changé, si vous voulez. Mais c'est pas cela qui touche à ce fantasme d'identité personnelle. L'identité personnelle, il faudrait reprendre mot à mot ce que Hume dit dans cette page magnifique du traité de la nature humaine, et on verrait qu'on a le sentiment que autant de sentiments passés, présents et bien sûr futurs, autant d'impressions, de jugements, etc., etc., sont comme des parties d'un ensemble.
Mais alors, est-ce que ça ne vient pas, par exemple, de ce que Kant décrirait quand il parle du sentiment du sublime? C'est ce moment où la disproportion entre le spectateur et le spectacle est telle que on donne au spectacle, qui à l'échelle cosmique est dérisoire, mais qui, vu par moi, est gigantesque, on donne au spectacle une sorte de valeur absolue, d'immensité absolue. Est-ce qu'en somme, ça ne vient pas du moment où on bascule, peut-être par faiblesse ou par ignorance, dirait Spinoza, de l'impression et du savoir qu'en somme tout est relatif, à l'idée que non, c'est tellement grand ou c'est tellement certain que ça ne peut pas ne pas être absolument grand ou absolument certain ou absolument consistant. Est-ce que ça n'est pas finalement une faiblesse, un mouvement de bascule qui irait d'une impression à une théorie comme ça, comme un laisser-aller?
C'est un petit peu plus précis que ça dans Kant. Ce que désigne le sublime chez Kant, c'est le divorce entre la représentation ou imaginative et la raison concevante. Donc, ça veut dire que le sublime, c'est une sorte d'imagination d'un grand qui est transcendant. Or, l'idée du moi ou de l'unité du moi n'est pas du tout... Enfin oui, c'est une idée imaginative dans la mesure où, enfin c'est un concept ou une impression imaginative, dans la mesure où on a une impression d'unité, là où on ne peut absolument pas établir l'unité. De même que dans le sublime, on a le sentiment de la parfaite grandeur sans pouvoir l'imaginer. Alors je pensais vous contredire, mais en y réfléchissant, c'est vrai, il y a un rapport lointain. Mais il y a un rapport entre le sublime et le sentiment imaginatif du moi. À cette différence près que pour Kant, cette imagination du grand, du grand de la raison, n'est pas illusoire, alors que l'imagination de l'unité du moi est illusoire, selon moi. Mais ça s'agence un peu de la même façon, effectivement.
Connais-toi toi-même, hein, recommandait Socrate à ses élèves. La connaissance de soi, réponse de Clément Rosset, la connaissance de soi est à la fois inutile et inappétissante. Qui souvent s'examine n'avance guère dans la connaissance de lui-même. Et moins on se connaît, mieux on se porte. À bon entendeur donc. Et merci Clément Rosset d'être venu nous voir pour parler de vous-même dans cette émission sur... la question de l'identité personnelle, vous-même ou voilà, enfin vous-même, moi-même, le moi, donc en question. Dans ce livre, s'appelle Loin de moi, une étude sur l'identité, paru aux éditions de Minuit. Merci aussi à Nicolas Delon, André Martins et Santiago Espinoza d'avoir participé à cette conversation. Demain, c'est en compagnie de Frédéric Schifter, entre autres, enfin le camarade Frédéric Schifter viendra s'adjoindre à notre table pour parler de la logique du pire. Sous la musique de Ravel, à la technique, aujourd'hui c'était Pierrick Charles, à la réalisation François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Éléonore Clovis et Gabriel Alperne. France Culture, il est 17h50, tout de suite vous avez rendez-vous avec Albert Jacquard.